Sa main était posée sur la table, un peu avancée vers moi. Autour de nous, dans le jardin verdoyant de l'auberge, entre les ceps des treilles et les troncs des pins noirs, les serveuses en tablier brodé couraient avec de lourds plateaux chargés de carafes, dégueulant un peu, au gré des pas des jeunes filles sur les graviers, leur vin blanc si fraîchement tiré du baril qu'il en était trouble et mousseux. J'avais envie d'évoquer des souvenirs de Syrie. Je me retrouvais à disserter sur le Danube de Magris. Sarah. Tu oublies le judaïsme, j'ai dit. Elle m'a souri, plutôt surprise. Son regard s'est éclairé un instant. Oui, bien sûr, le judaïsme aussi. Était-ce avant ou après qu'elle m'emmène au musée juif de la Dorothea Gasse, je ne sais plus. Elle avait été outrée, absolument choquée par l'indigence de ce musée. Elle avait même rédigé un commentaire annexe au guide officiel du musée juif de Vienne. Très ironique, plutôt hilarant. Je devrais y retourner un de ces jours, voir si les choses ont changé. À l'époque, la visite était organisée par étages. Exposition temporaire d'abord, puis collection permanente. Le parcours holographique des personnalités juives éminentes de la capitale lui avait paru d'une vulgarité sans nom. Des hologrammes pour une communauté disparue, pour des fantômes. Quelle horrible évidence. Sans parler de la laideur de ces images. Elle n'était encore qu'au début de son indignation. Le dernier étage l'a fait ni plus ni moins éclater de rire. Un rire qui s'échangeait petit à petit en une rage triste. Des dizaines de vitrines débordaient d'objets en tout genre. Des centaines de coupes, de chandeliers, de téfilines, de châles, des milliers de judaïcas entassés sans ordre aucun, avec une sommaire et terrifiante explication. Articles spoliés entre 1938 et 1945, dont les propriétaires ne se sont jamais fait connaître, ou quelque chose d'équivalent. Des prises de guerre retrouvées parmi les débris du Troisième Reich et entassées sous les toits du musée juif de Vienne, comme dans le grenier d'un aïeul un peu désordonné. Une accumulation. Un tas de vieilleries pour un antiquaire sans scrupules. Et il n'est point douteux, disait Sarah, que cela s'est fait avec les meilleures intentions du monde, avant que la poussière ne prenne le dessus et que le sens de cet amoncellement ne se perde totalement pour laisser la place à un Capharnaüm, qui est le nom d'une ville de Galilée, n'oublie pas, disait-elle. Elle alternait entre le rire et la colère. Mais quelle image de la communauté juive! Quelle image, je te jure, imagine les enfants des écoles qui visitent ce musée. Ils vont s'imaginer que ces juifs disparus étaient des argentiers collectionneurs de bougeoirs. Et elle avait sans doute raison. C'était déprimant. Et me faisait sentir un peu coupable. La question qui hantait Sarah après notre visite du musée juif, c'était celle de l'altérité. De quelle façon cette exposition éludait la question de la différence pour se centrer sur des personnalités éminentes qui ressortissaient au même et une accumulation d'objets dénués de sens qui désamorçait, disait-elle, les différences religieuses, culturelles, sociales et même linguistiques pour présenter la culture matérielle d'une civilisation brillante et disparue. Cela ressemble à l'entassement de scarabées fétiches dans les vitrines en bois du musée du Caire, ou aux centaines de pointes de flèches et de grattoirs en os d'un musée de la préhistoire, disait-elle. L'objet remplit le vide. Voilà. J'étais tranquillement dans un Heuriger à profiter d'une magnifique soirée de printemps, et maintenant j'ai Mahler et cette Kinder Totenlieder dans la tête. Chant des enfants morts. Composé par celui qui tint sa propre fille morte dans ses bras à Maïernik, en Carinthie, 3 ans après les avoir composés, des chants dont on ne comprendra l'horrible étendue que bien après sa propre disparition en 1911. Parfois,